Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lave et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Nous, les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes, dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va ?
Salut Pauline, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, alors ça y est, il y est, l'IVG inscrit dans la Constitution.
Oui, on ne va pas faire la fine bouche, voilà qui restera au bilan des bonnes nouvelles de 2024, si ce n'est plus. Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ses droits. Alors après la douche glacée qui nous a hébétés quand la Cour suprême américaine est revenue sur Roe v. Wade, je crois qu'on peut sincèrement se réjouir. Reste qu'il faut effectivement pouvoir avorter, avoir accès à un médecin qui le veuille, avoir accès à quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, même quand on n'habite pas en ville, même quand on est mineur. Alors on s'est félicité, on s'est congratulé, mais il y a encore tant à défricher, tant à faire, et je ne parle évidemment pas du réarmement démographique. La loi garantit à toute personne l'accès libre et effectif à ses droits. Mais est-ce qu'elle garantit une vraie lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec de vrais moyens ? Est-ce qu'elle garantit les droits des femmes précaires remis en cause par ceux qui durcissent l'accès au chômage, aux prestations sociales ? Est-ce qu'elle garantit les droits des femmes migrantes toujours plus poussées dans la clandestinité, l'illégalité par ceux et celles qui font les textes ? Alors il ne faudrait pas que le symbole de l'IVG escamote la politique de ce gouvernement dont les effets, eux, ne sont pas symboliques, pas du tout. Mais ce soir, on a choisi d'élargir le champ, de parler de femmes dont on parle trop peu, de femmes qui sont confrontées à l'enfer, de femmes dont on a rayé l'existence.
Oui, on va s'attaquer au sujet de la condition des femmes afghanes, un sujet qu'il est fondamental d'aborder.
Depuis le 15 août 2021, les talibans ont repris le contrôle de la capitale afghane, Kaboul, alors que les troupes américaines, elles, partaient définitivement du pays.
Pour rappel, les talibans sont une organisation militaire, politique et religieuse, fondamentaliste, islamiste. Et depuis leur retour, ce pays, l'Afghanistan, s'est mué en prison. Et les premières captives, ce sont les femmes afghanes.
Elles sont empêchées de s'habiller librement, de s'instruire, elles sont aussi exclues de toute activité sociale. Sauf que voilà, le monde n'allant pas très bien en ce moment, l'attention médiatique s'est détournée du sort des Afghans et des Afghanes.
Et on repense seulement à ces dernières quand une mesure liberticide est annoncée par le régime des talibans. Par exemple, quand les talibans arrêtent de nombreuses Afghanes pour mauvais port de leur voile, le hijab, pour les envoyer en prison.
Mais le calvaire des femmes afghanes, il est quotidien. Alors on a voulu ce soir en parler et comprendre comment elles vivent aujourd'hui dans leur pays.
Et pour parler de ce sujet, nous avons donc avec nous deux invités. Shakiba Dawad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une artiste, activiste afghane vivant à Paris, membre du collectif Le Bruit qui court, notamment. Et vous avez aussi fondé l'association Le Cercle Persan.
Oui, tout à fait.
Et nous sommes aussi avec Mélissa Cornet, bonsoir. Mélissa Cornet va nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. Vous êtes chercheuse sur les questions des droits humains, notamment des droits des femmes, basée à Kaboul depuis janvier 2018. Et vous nous parlez d'Istanbul ce soir, ce qui explique une petite latence. Merci à toutes les deux, quoi qu'il en soit, d'être avec nous ce soir. On se lève et on se casse. C'est parti.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Alors, Shakiba Dawad, on voulait vous demander si vous deviez nous décrire aujourd'hui la vie quotidienne d'une femme en Afghanistan. Concrètement, du lever au coucher du soleil, ça ressemble à quoi ?
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
Alors aujourd'hui, avec les féministes afghanes et les membres de la communauté des résistantes afghanes, on parle de apartheid de genre en Afghanistan. Il faut savoir en fait de quelle femme on parle. Est-ce qu'on parle de la femme instruite, de la femme qui a fréquenté les établissements d'études supérieures en Afghanistan, ou la femme traditionnelle afghane, les femmes qui habitent dans les campagnes afghanes. Aujourd'hui, je dois vous dire que il n'y a pas un grand signe de changement depuis l'arrivée des talibans, malheureusement. La situation est très cynique et désastreuse depuis l'arrivée des talibans. Il y a un taux de féminicide qui a augmenté et ce genre d'affaires sont étouffées parce que ça n'attire pas l'attention des autorités talibans, ou parfois c'est les talibans eux-mêmes qui commettent ce genre de actes. Peu importe la raison, ils tuent les femmes. Il y a aussi un grand nombre de suicides chez les femmes afghanes parce que suite aux arrestations arbitraires qui a eu lieu il y a quelques mois par les talibans, les femmes afghanes en rentrant de la prison souvent décident de se suicider parce qu'il y a la question de leur honneur qui est touchée. Et vous savez très bien que dans la société afghane, une femme qui est touchée par un homme, que ce soit vrai ou faux, en fait, son image devant la société, devant sa famille est entachée, donc elle ne peut pas continuer à vivre sous ce poids. Ensuite, on peut aussi parler des phénomènes et des problèmes neuropsychiatriques qu'on voit chez les femmes afghanes à cause de l'isolement. Après, il y a la dépression chronique aussi parce qu'elles sont condamnées à la maison, elles n'ont pas accès à l'extérieur, tout simplement. Elles ne peuvent pas sortir sans être accompagnées par un chaperon.
Qu'est-ce qui est interdit pour les femmes? Par exemple, on sait qu'en Afghanistan, l'Afghanistan est le seul pays du monde à interdire l'accès aux femmes et aux filles à l'éducation. D'ailleurs, selon l'ONG CARE, 80% des filles et des jeunes femmes en âge d'être scolarisées ne le sont pas. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le quotidien des jeunes filles du coup qui ne sont pas éduquées, enfin qui n'ont pas accès à l'éducation ni à l'école?
Alors, en fait, en fonction de famille, de l'endroit où ils habitent, je pense que les familles ont essayé de trouver différentes solutions pour occuper les femmes à la maison. Certaines qui ont commencé à travailler, à devenir entrepreneurs chez elles, en faisant soit de l'artisanat, de l'artisanat, ou dans la culture de certains produits comme safran, etc., ou dans la tapisserie, je sais pas, création de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien que parfois on peut donner des cours de photographie ou cours de montage, sur ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup vu des jeunes femmes entrepreneurs qui, comme toutes les femmes à travers le monde, ont choisi de faire des métiers dans le numérique, et ce genre de choses, ça existe en Afghanistan aussi. Après, les jeunes femmes qui sont dans les campagnes, je pense que beaucoup font de l'agriculture comme d'habitude. Leur quotidien n'a pas beaucoup changé. Ils aident leur famille dans l'élevage, sur la terre, etc. Mais par contre, je pense qu'accès à l'éducation en Afghanistan est autorisé jusqu'à l'élémentaire.
Jusqu'à 12 ans.
Ouais, voilà, exactement, jusqu'à 12 ans. Après, il n'y a plus d'école, pas d'université. Sauf, je sais qu'il y a quelques temps, les talibans ont autorisé les éducations pour les femmes dans les domaines de la santé, enfin pas tous, mais par exemple le sage-femme, la maternité, etc.
Aussi, ouais, on va en parler plus précisément au fur et à mesure.
Donc vous nous disiez que les femmes arrivent à trouver des activités chez elles, de petits artisanats, celles qui vivent dans les campagnes pratiquent l'agriculture, parce qu'en fait le reste des métiers, la plupart des métiers aujourd'hui sont interdits aux femmes.
Oui, tout tout à fait, exactement.
Comme par exemple, oui.
Travailler dans l'administration, la fonction publique. Avant la chute du gouvernement afghan, il y avait beaucoup de femmes qui avaient fait des hautes études, qui avaient intégré le corps de gouvernement, le système, et ils travaillaient dans la fonction publique ou dans les ONG, dans les entreprises privées, dans toutes sortes de métiers. Il y avait des femmes qui étaient magistrats. Dans le corps de la justice.
En 2021, il y a eu un changement drastique, c'est-à-dire que des femmes qui avaient accès à des très hauts postes, n'ont plus accès à rien du jour au lendemain.
Tout à fait. Tout le monde a déserté. Tout le monde était obligé de quitter l'Afghanistan, de retrouver refuge dans les pays limitrophes et voisins comme Pakistan et Iran, ou arriver, rejoindre soit leurs compagnons, soit leurs familles, soit toutes seules. Tout simplement, ils ont été évacués par les gouvernements étrangers vers les pays occidentaux.
Parmi ce qui est interdit, ça c'est un peu plus récent, il y a aussi un aspect auquel on penserait pas forcément comme essentiel à la vie d'une femme, mais il y a les salons de beauté ont fermé. Et en fait, c'était des espaces d'échange, d'intimité. C'était quand même un endroit où sortir, où on voyait d'autres gens. Et quel impact ça a eu, ça
Je pense que ça a surtout un impact psychologique chez la femme, parce que s'entretenir pour n'importe quelle raison, que ce soit pour nous-mêmes, pour sortir, pour son amoureux ou pour participer dans les cérémonies, c'est très important pour les femmes. C'est une sorte d'amour propre pour soi, tout simplement. Et donc, ce genre de agora, les lieux de retrouvailles comme les salons de beauté, c'était des endroits safe pour les femmes où on pouvait se retrouver que entre les femmes, comme les bains publics, par exemple. Ça a disparu peut-être en Occident, mais comme à l'époque grecque, en Afghanistan, ça existait, c'est répandu et c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes n'ont plus accès à ces salons.
D'accord. Ouais. Et en fait, c'est des lieux de sociabilisation entre les femmes. Est-ce que vous diriez que l'arrivée des talibans, ça a aussi isolé les femmes les unes des autres et que du coup, elles n'ont plus de contact entre elles, qu'elles ne peuvent plus parler, ou c'est pas tout à fait ça encore?
Je pense que... Nous vivons l'Afghanistan depuis l'extérieur. Je pense pas que... on a une vision qui est très, très sombre, en fait. Mais je pense que la vie continue. Malgré que les talibans sont arrivés, je pense que les gens se sont habitués, ils sont devenus banals. Les gens continuent à vivre. Les femmes se retrouvent. Si c'est pas dans le salon de beauté, ils se retrouvent chez les autres, au sein de la famille, etc. En sachant que les familles afghanes sont souvent des grandes familles nombreuses, des cousines.
La vie quotidienne continue et suit son cours. C'est juste que les droits sont plus du tout les mêmes.
Les femmes ne sont pas prioritaires.
Elles sont même en dernière.
Exactement. Tout est parfait pour les hommes, mais les femmes n'ont aucun droit.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que les sanctions, si on ne respecte pas ces règles qui sont extrêmement contraignantes, elles peuvent être très dures. Et justement, j'en profite, on va peut-être accueillir notre deuxième invitée.
Mélissa Cornet, est-ce que vous nous entendez?
Bonsoir, oui. Est-ce que vous m'entendez?
Bonsoir Mélissa. Désolée pour ce petit problème technique. Merci de vous joindre à nous. Avec notre première invitée, nous parlions donc des conditions de vie des femmes en Afghanistan et notamment de leur accès à l'éducation, puis aussi aux problèmes de santé que ça peut causer, ce manque de droits, cette absence de droits et cet isolement. Mao, je ne sais pas si tu veux...
Oui, je voulais qu'on rappelle aussi ce à quoi on est confronté, en fait, si on ne respecte pas les règles qui sont imposées par les talibans aujourd'hui.
Alors, sur les règles, disons que ce que les talibans ont réussi à faire, c'est vraiment extérioriser le contrôle des femmes par la famille. Donc déjà, il faut rappeler que l'Afghanistan était très conservateur avant l'arrivée des talibans, et aussi qu'il y a une sorte d'infantilisation des femmes. Donc, pour vous donner un exemple, quand le décret sur le port du hijab a été décrété, c'était mai 2022, si je me rappelle bien, si une femme était arrêtée pour port non conforme du hijab, c'était son mahram, donc ça veut dire son chaperon, donc le membre masculin de sa famille qui est responsable d'elle, qui allait être puni à sa place, donc comme une sorte de, comme si elle était mineure en fait. Et comme les familles soit sont conservatrices et donc d'accord avec certaines normes, soit tout simplement ont peur pour leurs femmes et pour leurs filles, c'est elles qui vont aussi finir par étouffer en fait les femmes et les filles en leur interdisant de sortir. Donc par exemple, on a vu depuis janvier des vagues d'arrestations dans le quartier de Dasht-e-Barchi à Kaboul qui visaient principalement les femmes et les filles de la minorité Hazara. Et ce qu'on a vu, c'est qu'énormément de filles ont arrêté d'aller à l'école jusqu'aux 12 ans, ont arrêté de sortir de chez elles parce qu'elles avaient juste tellement peur, mais surtout leur famille avait très peur pour elles. Après, ce que l'on voit aussi, mais c'est quand même un peu plus rare, c'est les cas de répression, donc les cas où les talibans vont vraiment aller arrêter des femmes. Donc ça va être beaucoup des activistes, des femmes qui ont participé à des manifestations dans la rue, en ligne, etc. Et là, on sait, ça a été documenté par Amnesty, par Human Rights Watch, que ce sont des traitements extrêmement brutaux. Et que c'est très dur pour ces femmes de pouvoir en parler, comme évoqué précédemment, il y a beaucoup de honte et des questions d'honneur qui font que c'est très compliqué de documenter ces cas. On est au courant, on sait que ce sont des traitements très, très brutaux, mais malheureusement, malheureusement voilà, ça continue sans peu de processus des droits, on va dire, pour...
Et justement, vous parliez de traitements très brutaux des femmes, et donc bon, ces femmes qui sont brutalisées, très souvent, il faut bien les soigner. Comment est-ce que, concrètement, est-ce que vous décririez l'accès des soins aux femmes aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de femmes médecins et d'infirmières qui sont parties d'Afghanistan à l'arrivée des talibans, et qu'apparemment, il y a quand même un grand manque de médecins. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour leur accès aux soins ?
C'est extrêmement compliqué. On a eu pratiquement un effondrement du système de santé après août 2021. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le système de santé publique est vraiment sous perfusion des ONG, donc que ce soit le CICR, que ce soit des petites ONG, etc., mais qu'on n'est pas du tout au niveau requis pour pouvoir répondre aux besoins des femmes. En plus de ça, il y a beaucoup de contraintes à leur mobilité, par exemple. Donc, une femme qui, par exemple, est veuve ou qui n'a pas de mari ou de père pour l'accompagner, elle ne peut pas forcément se déplacer pour aller à l'hôpital. On a aussi des problèmes par rapport au fait qu'il y a une énorme crise économique et humanitaire en ce moment en Afghanistan, et donc parfois les femmes n'ont même pas de quoi payer le taxi pour aller à l'hôpital. L'hôpital public, c'est aussi un hôpital où il faut pouvoir payer les médicaments, par exemple. Les femmes n'ont pas toujours les moyens de payer ça. Et évidemment, on a aussi le problème des ressources humaines. Donc aujourd'hui, on a encore des femmes infirmières, docteurs, etc. Beaucoup ont quitté le pays, mais il en reste. Mais le problème, c'est qu'on a une sorte de bombe à retardement, parce que sans femmes qui peut aller à l'université de médecine, avoir leur diplôme, on a un vrai problème. On sait que dans quelques années, malheureusement, on a déjà un déficit du nombre de femmes dans le domaine de la santé, mais c'est un problème qui va continuer à s'aggraver. Donc là, j'étais par exemple il y a 2 semaines à la maternité de Kalat, donc à Zaboul dans le sud, et c'est des situations qui sont très 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 compliquées. On a 2 ou 3 sages-femmes qui doivent gérer en même temps jusqu'à 6 accouchements et qui malheureusement n'ont pas ni les lits, ni les médicaments, ni les gants, ni le temps de s'occuper de ces femmes, et du coup qui se retrouvent aussi à devoir renvoyer les femmes qui viennent juste d'accoucher chez elles après 2 ou 3 heures. Mm-hmm. C'est une situation qui est vraiment extrêmement compliquée, et avec tout au bout de la chaîne, entre guillemets, les bailleurs de fonds internationaux qui, en raison du nombre de crises dans le monde aussi en compétition, commencent à ralentir, à couper les fonds. Donc même les ONG qui jusqu'ici arrivaient à... Très bien.
Et concrètement, alors on parle des femmes essentiellement ici, et c'est bien normal, mais concrètement, comment les hommes, ceux qui ne font pas partie des talibans, les hommes afghans au quotidien se comportent vis-à-vis des lois qui ont été instaurées par les talibans ? Je peux poser la question à Shakiba Daoud et à Mélissa.
Moi, je me suis entretenue avec plusieurs hommes afghans qui font partie des membres de la famille ou des amis tout simplement qui sont restés en Afghanistan. Leur réaction par rapport à toute cette situation. En fait, beaucoup d'entre eux, notamment les gens qui vivent dans les villes, ne sont pas d'accord avec les lois instaurées par les talibans, mais ils sont face à une sorte de fatalité et ils ne peuvent rien faire parce que dès que, voilà, s'ils soutiennent les femmes, ils vont être sanctionnés. Après, ce sera la famille qui sera touchée parce qu'ils ont des enfants, et ils sont le responsable de la famille et ils vont se retrouver aux prisons ou ils vont être tout simplement éliminés par les talibans complètement disparus.
Oui, c'est ça, parce que quand on parle de sanctions, il y a la prison, mais il y a aussi des châtiments corporels en public et des exécutions en public.
Oui, tout à fait, exactement. Donc là, pour l'instant, tout le monde préfère garder le silence, mais il ne faut pas oublier que dans les campagnes, dans les zones rurales, il y a beaucoup de gens qui vivent de manière traditionnelle. En fait, leur vision n'est pas très différente de celle des talibans. Donc, ils vivent à peu près de même manière, même avant que les talibans arrivent. Et c'est une des raisons pour laquelle les talibans ont réussi à reprendre le pouvoir.
Oui, c'est quelque chose que vous constatez aussi, Mélissa Cornet ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand on sort des grandes villes, c'était une situation qui était déjà très similaire avant, notamment dans le sud ou dans l'est, déjà des provinces ou des districts où il n'y avait pas d'école pour filles, où les femmes devaient être accompagnées, etc. On voit aussi énormément de différences entre les différentes provinces, notamment entre le sud et le nord du pays. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même relativement peu de mobilisation de la part des hommes, à l'exception, je dirais, du sujet de l'éducation des filles. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel la très, très, très grande majorité des Afghans, des Afghanes, et même parfois au sein du mouvement taliban sont d'accord, c'est que les filles dans l'islam doivent aller à l'école. Et maintenant, en plus que le pays est techniquement sous charia, il ne devrait pas y avoir d'obstacle en fait, au fait que les filles puissent aller à l'école. Et on a vu des mobilisations, on a vu dans quelques provinces, donc par exemple Paktia, qui est une province juste au sud de Kaboul, des leaders de la communauté, en gros, aller voir les autorités de facto pour leur dire « nous allons rouvrir les écoles, nous voulons que les écoles rouvrent », sans succès jusqu'ici, malheureusement, mais c'est un peu le seul le point, disons, sur lequel tout le monde est d'accord, que ce soit Afghans, Afghanes, membres de la communauté internationale, c'est vraiment le gros sujet aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation des filles.
On va faire une courte pause. Shakib Edawad, Mélissa Cornet, on poursuit cette discussion dans un instant. Le temps d'écouter des filles qui font du rock, les Anglaises de The Last Dinner Party avec leur titre The Feminine Urge.
Thank you.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Mélissa Cornet, chercheuse sur les questions des droits humains, et l'artiste activiste Shakiba Dawood. Et ce soir, dans On se lave et on se casse, on parle de la situation des femmes en Afghanistan, un pays qui emmure la moitié de sa population. Tout à l'heure, on parlait un peu de la guerre, tout en mesurant cet impact de la guerre, de la pauvreté, de l'instabilité politique aussi. Les femmes afghanes, avant le retour des talibans, ont connu des années de relative liberté, sachant que ça reste un pays tout de même très conservateur. Comment les femmes afghanes, elles ont vécu cette régression, Mélissa Cornet ?
Alors, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment différencier entre les femmes dans les grandes villes qui ont eu droit, qui ont bénéficié des programmes d'aide, d'empouvoirment des femmes, des universités américaines, etc., et qui ont vraiment vu, en fait, ce qu'on leur promettait, ce qu'elles pouvaient avoir, qui sont devenues ministres adjointes, gouverneurs, maires, juges, policières, etc. Et les femmes dans les zones rurales plus conservatrices qui, malheureusement, ces programmes-là ne les ont pas forcément atteints et qui, pour elles, du coup, ont plutôt connu la guerre, en fait. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans des régions qui ont été particulièrement affectées par la guerre, notamment par les raids de nuit, etc., on voit presque une sorte de soulagement de certaines femmes qui disent la situation est mauvaise maintenant, mais elle était déjà mauvaise avant. Mais surtout, aujourd'hui, on n'a plus peur que nos enfants se fassent tuer, on n'a plus peur que nos maris se fassent tuer. Donc, c'est une situation assez intéressante. Après, dans les grandes villes, évidemment, toutes les femmes que moi je rencontre qui, par exemple, ont dû interrompre leur éducation, pour elles, c'est extrêmement cruel, en fait, parce qu'elles ont vu ce qu'elles pouvaient avoir et on leur a repris. Et on leur a pris de manière très soudaine, très immédiate, et il y a un vrai sentiment de trahison profonde, je pense, à l'égard de la communauté internationale qui leur a tout promis avant de partir et de laisser tomber, en fait.
Donc, Shakiba Dawood, vous voulez rajouter quelque chose ?
Je pense que tout est dit, mais je voudrais juste noter que les femmes afghanes comptent énormément sur la solidarité internationale, d'autres communautés de féministes. Il faut garder le sens de la justice et de l'empathie vis-à-vis des femmes afghanes, ce que je peux dire.
Et tout à l'heure, Shakiba, vous nous disiez que... le fait est qu'on s'adapte à tout, effectivement, de l'extérieur, et aussi c'est cette distinction entre grosses villes et les autres parties du territoire, elle est intéressante, parce que l'idée, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une image peut-être d'un bloc, on va dire, de l'Afghanistan. Déjà, c'est un pays qui est très grand, qui est multicommunautaire, et où les réalités sont très différentes selon là où on vit. Et vous nous disiez que voilà, les gens quand même continuent à vivre, alors certes dans des conditions qui sont dures, et surtout, je pense notamment à cause de la pauvreté. Mais comment on fait aujourd'hui pour survivre en tant que femme ? Quels espaces de liberté on peut trouver ?
Je pense qu'aujourd'hui, le combat des femmes afghanes a reculé dans les maisons. C'est-à-dire, ce que je vois... c'est que les femmes continuent, même si on ne leur permet pas de sortir manifester dans la rue, elles se réunissent dans les maisons, chez les unes et les autres, en écrivant leurs messages en anglais, en toute langue qu'elles peuvent, en fait, en farsi, en demandant de l'aide et de l'attention de la part de la communauté internationale pour chaque droit qu'elles perdent. On voit, soit ils se regroupent pour chanter une chanson, elles essayent de parvenir leur message à travers les réseaux sociaux jusqu'à nous. Et je vois très bien que quelques médias les relaient, mais pas tous. On sait très bien que la crise afghane est aujourd'hui derrière la crise palestinienne et la crise ukrainienne, mais on a besoin quand même de les voir, de prendre leur combat en considération, en sachant qu'on a perdu tout espoir de reprendre l'Afghanistan ou d'un conflit armé qui pourrait nous permettre de faire un contrebalance contre les talibans.
Oui, et ces perspectives, on en reparlera. Je me demandais aussi, concrètement, vous disiez que le combat avait reculé dans les maisons, donc chez soi, en fait. Mélissa Cornet, est-ce qu'il y a des écoles secrètes, des médias, des associations qui arrivent à exister, on va dire, sous les radars ?
Oui, comme ça a été dit très justement, les femmes réussissent toujours à trouver, en fait, à se creuser des espaces de liberté qui sont toujours forcément à l'abri derrière des murs, que ce soit les salons de beauté sont interdits, mais beaucoup de ces femmes ont rouvert des salons de beauté chez elles, donc elles peuvent se réunir, que ce soit réussir à se retrouver pour des fêtes d'anniversaire, à jouer de la musique, danser, etc. Mm. Que ce soit se retrouver dans des galeries d'art, j'ai pu voir ça le mois dernier, juste faire des cours de dessin, faire des cours d'anglais, etc. Ça demande beaucoup de volonté, évidemment. Bon, la plupart des femmes que je rencontre, malheureusement, ça reste très dur, et des circonstances qui l'autorisent, c'est-à-dire notamment une famille qui vous soutient. Il continue à y avoir effectivement pas mal d'écoles secrètes. J'ai réussi à en visiter plusieurs, mais c'est des écoles qui sont généralement protégées par la communauté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les talibans ne sont pas au courant, mais les voisins, les leaders de la communauté sont en faveur de l'éducation et font en sorte que ces écoles sont protégées. C'est généralement juste une pièce dans une maison qui a été mise à disposition avec une petite classe, une prof qui vient, des étudiantes qui du coup habitent vraiment dans la rue à côté, qui n'ont pas beaucoup de trajet à faire pour venir, qui se couvrent énormément quand elles sortent de chez elles. Moi, j'ai vu aussi des étudiantes qui mettaient leurs livres, par exemple, dans des sacs plastiques et pas dans des cartables pour ne pas que ce soit pour ne pas qu'il y ait de soupçons, oui, etc. Donc, il y a forcément ces tout petits espaces de liberté. Mais ce que je dois quand même dire, là, comme ça fait pratiquement 3 ans que la situation a changé, c'est que malgré cela, on voit quand même une grosse perte de l'espoir quant au fait que la situation que leur puisse s'améliorer et qu'elle puisse avoir un meilleur futur.
Et vas-y, peut-être.
En 2024, on parlait du lien social, du fait de garder un lien social avec sa communauté, de se soutenir. En 2024, il y a les réseaux sociaux, Internet, l'accès à une culture mondialisée. Donc, et en quoi ça change la donne aujourd'hui en comparaison au premier règne des talibans à la fin des années 90, Shakiba Dawood?
Alors, je pense que les talibans des années 90 étaient complètement différents de talibans d'aujourd'hui. Parce que, enfin, aujourd'hui, je pense que on est face à une nouvelle génération de talibans qui connaît très bien les réseaux sociaux, l'internet. Ils savent employer en fait tout ce système et technologie. Après, au niveau de l'arsenal militaire, ils sont bien armés parce que quand les Américains sont partis, ils ont laissé des millions de dollars d'arsenal militaire en Afghanistan, qui était par ailleurs une offre de la part de l'armée américaine pour l'armée afghane. Je pense que idéologiquement, ils ont été, ils ont continué un peu leur relation avec les Saoudiens, avec les Pakistanais et tout, leurs croyances idéologiques et radicales est toujours là, et c'est selon la même doctrine qui continue à régner sur le peuple afghan. Et après, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter d'autres choses.
Oui, ce que je me demandais aussi, peut-être que Mélissa Cornet, vous pouvez nous répondre, c'est est-ce que, alors déjà, je sais pas dans quelle mesure il y a un accès libre à Internet, mais est-ce que ça, c'est aussi un moyen de résister ou de trouver des fenêtres d'air ?
Alors oui, pour les activistes, c'est définitivement une plateforme qu'elles ont pu occuper. L'Internet est libre en Afghanistan, mais il est très scruté par les talibans. Donc ces femmes doivent forcément faire très attention. Mais depuis que les manifestations dans la rue ont été très brutalement réprimées, manifester en ligne, entre guillemets, est devenu un des moyens que ces femmes ont maintenant. Donc, ce qu'elles font beaucoup, c'est qu'elles se réunissent dans une maison, elles se couvrent bien le visage, elles ont des slogans, elles disent des messages, elles prennent des photos, elles les publient en ligne. Et c'est un peu le seul moyen qu'il leur reste de continuer à protester de manière relativement, relativement safe. Pour le reste des femmes, en termes de fenêtres sur le monde, évidemment, Internet est un très bon outil, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas un pays où il y a beaucoup d'électricité. Oui, ouais, alors, à Kaboul, on a moins de 12 heures d'électricité par jour. Il n'y a pas forcément beaucoup d'Internet. Et la majorité des femmes en Afghanistan, surtout en dehors des grandes villes, n'ont même pas accès à leur propre téléphone. Donc, pour les femmes, grandes villes, c'est super, et notamment il y en a énormément qui continuent leur éducation en ligne, mais cela s'arrête malheureusement aux frontières des grandes villes.
Et est-ce qu'aujourd'hui il est possible de quitter librement le pays? Et si oui, si tel est le cas, comment? Je pense que la réponse est compliquée, mais voilà. Est-ce que c'est possible de quitter l'Afghanistan pour une femme aujourd'hui?
Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Pour les femmes, déjà, il faut réussir à obtenir un passeport, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a eu de grosses ruptures de stock. C'est un problème très logistique, mais malheureusement, pendant des mois et des mois, les Afghans n'ont pas pu se procurer de passeport. Il y a ensuite le problème économique. Il faut pouvoir quitter le pays et quitter le pays avec un chaperon, donc aussi payer les frais de transport de son mari, son frère, son père, etc. Il faut réussir à obtenir un visa. C'est très 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 compliqué aujourd'hui d'obtenir un visa, que ce soit pour l'Iran ou le Pakistan. Il y a des visas qui se vendent au marché noir, c'est généralement plusieurs milliers de dollars, donc c'est très compliqué. Et une fois arrivé au Pakistan, qu'est-ce qui se passe? Le Pakistan, depuis novembre par exemple, s'est mis à renvoyer en Afghanistan tous les énormes centaines de milliers d'Afghans, donc ce n'est pas forcément une solution en soi. Réussir à venir en Europe, c'est très compliqué, c'est pas mon domaine d'expertise, je connais un tout petit peu la France, mais bien que la France dise qu'elle accueille pratiquement systématiquement les femmes qui en font la demande, par exemple, c'est pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir rendez-vous à l'ambassade de France à Islamabad pour faire une demande. Donc il y a énormément de problèmes logistiques qui se passent, et aujourd'hui c'est pratiquement impossible pour une femme de réussir à quitter le pays. Et les femmes qui le pouvaient, qui avaient les réseaux, le statut social, l'argent, l'ont fait depuis bien longtemps.
Oui, Cheikh Bedaoui, vous, c'est un parcours que vous avez fait, que vous avez quitté, vous avez fui l'Afghanistan il y a une dizaine d'années.
Non, il y a 15 ans, en fait, oui. À l'époque, pour nous, en tout cas, moi, comme j'étais comédienne de théâtre, j'étais membre du théâtre Aftab, un théâtre qui a été fondé par Ariane Mouchkine à Kaboul en 2005. J'ai pas été confrontée à beaucoup de difficultés parce que le Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine m'a soutenue et on a réussi à obtenir des visas de talent pour venir en France. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce cas-là. Je pense qu'il y a énormément de difficultés pour les femmes de sortir de l'Afghanistan. Je pense que tout était dit à ce sujet, mais après, une fois arrivé au Pakistan et en Iran, il y a des mois et des mois d'attente en attendant d'avoir un entretien à l'ambassade. Et pendant tous ces mois, il y a des familles ou des gens qui ont de la famille sur place, ils peuvent se loger, mais d'autres qui doivent trouver sûrement un endroit pour se loger et entre-temps de quoi se nourrir, avoir une source de revenus, soit être financé, aidé par les membres de la famille qui vivent à l'étranger dans les pays européens ou en Afghanistan. Je sais qu'en Iran, il y a beaucoup de discrimination face aux réfugiés afghans, par exemple. Ça, c'est une sorte de racisme systémique imposé par le gouvernement iranien sur les Afghans. On sait très bien que suite au mouvement Femmes et Liberté, il y avait beaucoup de femmes afghanes, beaucoup d'Afghans qui ont soutenu ce mouvement parce qu'ils s'identifiaient vraiment à ce problème et on pensait que ces deux luttes pouvaient se rejoindre. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, le gouvernement iranien a instrumentalisé la situation des réfugiés afghans comme quoi ils l'ont présenté comme les sources des problèmes des Iraniens, les problèmes problèmes économiques, notamment. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y avait une grande vague de haine envers des réfugiés afghans. Et il y avait beaucoup d'Afghans qui ont été pourchassés, tués. Leur maison a été brûlée. Et déjà, ils avaient quitté l'Afghanistan à cause des talibans et de l'horreur de la guerre. Et une fois arrivés en Iran, en espérant trouver un refuge, ils se retrouvent dans ce genre de situation. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on sait très bien, par des réseaux, par les connaissances qu'on a, qu'il y a aussi des réseaux de prostitution créés par le gouvernement iranien pour en fait pouvoir instrumentaliser, profiter des femmes afghanes. Oui. Ça, c'est encore aussi une sorte de violence liée à la question de genre qui est imposée aux femmes afghanes.
Mélissa Cornel, Shakib Adawad, vous restez avec nous. Il est grand temps d'écouter notre chroniqueuse Chloé.
Salut Chloé.
Salut Mao.
Merci beaucoup de te joindre à nous. Tu n'es pas avec nous ce soir. Ouais, t'es un peu loin de nous, mais ça tombe bien.
Effectivement, je suis avec vous, mais à distance. Mais ça tombe plutôt bien, puisque ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est à la fois loin dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est vraiment l'occasion.
Alors, on va reparler de mythologie ce soir. Jusque-là, tu nous as surtout parlé de mythologie grecque. Mais aujourd'hui, tu nous invites à décentrer notre regard pour nous parler de la mythologie d'une civilisation qui s'est épanouie sur le territoire de l'Afghanistan. Donc, c'est dans le sujet du jour, bien avant que ce ne soit l'Afghanistan. Et tout part de mystérieuses statuettes, les fameuses princesses de Bactriane.
Tout à fait. Ces fameuses princesses de Bactriane sont en fait des statuettes qui ont émergé à la fin des années 60 et dans les années 70. On les surnomme princesses parce qu'elles sont vêtues de robes très décorées, qu'on a comparées à des crinolines. Et quant à la Bactriane, c'est la région où on les a trouvées. Donc la Bactriane, c'est une région qui est située en Asie centrale, à cheval entre les états actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. Mais à vrai dire, on sait très peu de choses sur ces statuettes. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que leur apparition a fait partie de la découverte d'une civilisation très ancienne, la civilisation de l'Oxus. C'est une civilisation qui s'est développée pendant l'âge du bronze, donc il y a 4000 ans, et on n'en sait pas grand-chose parce qu'elle n'avait pas l'écriture et que la plupart des sites ont été pillés, notamment en Afghanistan. Mais on a quand même quelques hypothèses. On pense qu'il s'agirait d'une civilisation urbaine, puisqu'on a retrouvé un certain nombre de sites fortifiés et hiérarchisés avec une élite dirigeante.
Et alors, qui elles sont ces princesses de Bactriane ?
Donc ces princesses, elles restent très énigmatiques, mais comme elles ont été découvertes dans des tombes, les archéologues ont avancé plusieurs hypothèses. Donc peut-être qu'elles pourraient représenter des aristocrates qui se seraient fait enterrer avec des portraits d'elles-mêmes dans leurs tombes, ou bien peut-être qu'elles incarneraient une forme de reine-mère, la vestige d'un matriarcat primitif, et dans ce cas-là, ces statues viendraient protéger les élites enterrées. Ou enfin, une dernière hypothèse, ce serait qu'elle représenterait une déesse, et peut-être même la grande déesse de la civilisation de l'Oxus. Parce que même si on a peu de sources sur la mythologie de cette civilisation, on estime qu'au sommet du Panthéon, on trouvait une déesse.
Et une déesse au sommet de la hiérarchie des dieux, ça nous change. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle ?
Alors cette déesse, en fait, elle est souvent représentée en train de chevaucher un dragon-serpent ou bien d'étrangler des animaux. Donc on pense que c'était la maîtresse de la faune, donc une déesse puissante, qui avait un pouvoir sur les forces de la terre et des eaux du monde souterrain, mais aussi une déesse pacificatrice qui était en charge de réguler l'ordre naturel. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part, le fait que cette déesse soit prééminente, mais aussi que les tombes féminines sont plus riches que les tombes des hommes, c'est deux découvertes qui ont incité certains chercheurs à penser que la civilisation de l'Oxus aurait réservé une place particulière pour les femmes.
Une civilisation qui a donc 4000 ans, mais qui semble très avancée.
Oui, alors comme je le répète, cette civilisation est très mystérieuse, mais par contre, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle nous invite à nous questionner sur le récit qu'on fait de notre histoire. Aujourd'hui, on a un peu un seul récit, on raconte sur les origines des sociétés humaines une histoire très simple. D'abord, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs libres et égalitaires. Puis l'agriculture est apparue et dans son sillage, on a eu la propriété privée, les villes, la civilisation, mais aussi toutes les inégalités, des structures hiérarchiques comme la monarchie et des guerres pour les défendre. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule trajectoire possible. Et donc, par exemple, si vous lisez Sapiens, le best-seller de Yuval Noah Harari, vous pouvez en conclure que les inégalités et le patriarcat, c'est une étape logique et inéluctable de l'humanité à partir du moment où on sort de l'état de chasseur-cueilleur. Mais c'est aller un peu vite en besogne, puisqu'on n'a pas de traces identiques partout, et c'est ça que montre la civilisation de l'Oxus. Il y a eu différentes formes de sociétés humaines, et donc là, par exemple, des civilisations urbaines et hiérarchisées ont peut-être accordé la prééminence aux femmes.
Donc, ce que tu nous dis, c'est que pour nous féministes, on peut avoir des bonnes nouvelles qui viennent d'Asie centrale, de ce territoire qui est aujourd'hui celui de l'Afghanistan.
Oui, alors moi, je suis convaincue qu'en fait, la découverte récente de la civilisation de l'Oxus confirme que l'histoire simpliste qu'on se raconte sur nos origines, c'est un mythe. Et le problème, c'est que ce mythe a des conséquences désastreuses qui sont bien réelles pour nos sociétés, puisqu'il justifie les inégalités et qu'il légitime l'absence d'action pour les corriger. Aujourd'hui, on est dans une vraie phase de redécouverte de notre passé lointain et on s'en rend vraiment compte de sa diversité. Donc, il y a un ouvrage de la préhistorienne Marilène Patoumatis qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme » et il me semble que ce titre est vraiment emblématique de ce mouvement de redécouverte. Et donc, en fait, dans ce livre, cette chercheuse montre qu'aucun vestige archéologique ne prouve que certaines activités comme la chasse ou comme l'art rupestre étaient interdites aux femmes et que c'est nos préjugés contemporains qui ont genré les activités des humains de la préhistoire. Et c'est vraiment ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à projeter notre civilisation, à projeter nos valeurs, notre fonctionnement, notre présent sur les époques antérieures. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autres récits pour construire notre futur et ces princesses de Bactriane pourraient nous servir d'héroïnes.
Et la démonstration est impeccable. Merci beaucoup, Chloé.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
À quoi ressemble la vie des femmes en Afghanistan depuis le retour des talibans en 2021? C'est la question qu'on se pose ce soir avec nos deux invités, Shakipa Dawood et Mélissa Cornet. Alors Mélissa, je voulais vous demander de manière très terre à terre, est-ce que c'est viable dans un pays où, selon l'ONU, 97% de la population vit dans la pauvreté? Est-ce que c'est viable d'empêcher de vivre concrètement la moitié de sa population? Enfin, il y a moins de, on en a parlé, moins de main-d'œuvre, moins de personnes formées. Vous nous avez parlé du manque de médecins qui aura à moyen terme. Ça coûte cher aussi tout ça.
C'est ça, et la Banque mondiale avait fait des estimations et c'était une baisse, il me semble, de 5% du PIB due au fait que les femmes ne pouvaient pas travailler. La majorité des femmes, avant l'arrivée des talibans, travaillaient déjà principalement dans des secteurs informels, donc beaucoup dans l'agriculture, etc. Après, je pense que ce qui est intéressant de parler, c'est tout ce qui touche à l'aide au développement et à l'aide humanitaire. Parce que la situation qu'on a aujourd'hui en Afghanistan, c'est une crise humanitaire qui dure, mais en raison des sanctions, du fait que la banque centrale ne peut pas fonctionner, du fait que le système bancaire n'est toujours pas complètement fonctionnel, puisque l'Afghanistan ne fait plus partie techniquement de la communauté internationale. Mmh. Il y a énormément de problèmes pour que l'économie puisse reprendre. Donc, il n'y a pas de solution durable. Mmh. Donc, même solution d'aide humanitaire aujourd'hui, on distribue à manger, c'est très important, ça sauve des vies, mais en fait ça résout le problème pour un mois. Et le mois suivant, il faut redistribuer de nouveau de la nourriture et on a beaucoup de mal, les ONG ont énormément de mal à réussir à convaincre les bailleurs de trouver des solutions durables, c'est-à-dire de créer des emplois, de faire en sorte que les Afghans n'aient pas besoin de l'aide humanitaire pour survivre. Et il y a les problèmes liés aux femmes et l'interdiction des femmes de bosser en ONG. Ça, c'est même un tout autre problème très important aussi.
Mais justement, ça, on allait en parler. Donc, les femmes, comme vous le disiez, n'ont plus le droit de travailler pour ces organisations. Donc, ça met l'aide internationale dans une position délicate. Comment est-ce qu'on soutient les habitants d'un État qui ne respecte pas la dignité humaine de base? D'ailleurs, l'amoindrissement des aides, le gel des réserves en monnaie étrangère a pesé sur l'économie. C'est ce que vous dites?
Exactement. Sur l'interdiction des femmes en ONG et pour les agences de l'ONU, ça a été des décisions politiques et très difficiles en fait, parce que d'un côté, on ne peut pas abandonner la population afghane, parce qu'il y a vraiment une double peine en fait, non seulement les restrictions des talibans contre les femmes, mais en plus, on arrêterait de donner de l'aide humanitaire à ces femmes et à leurs enfants, donc ça, c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, aucune ONG ou aucune agence de l'ONU n'a fermé en Afghanistan. Il y a eu des suspensions temporaires, mais il n'y a pas eu de fermeture. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que l'Afghanistan étant un pays très conservateur, c'est pas un pays où une femme humanitaire peut être remplacée par un homme. C'est pas approprié en Afghanistan pour un homme d'aller frapper aux portes, d'aller enregistrer une femme, de les distribuer de l'argent, de la nourriture, etc. Donc ça a mis les ONG dans une situation extrêmement délicate. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'énormément d'accords locaux en fait, ont été trouvés. Il y a beaucoup de gris en fait, dans toutes ces décisions des talibans. Et donc aujourd'hui, la grande majorité des femmes réussissent à trouver des moyens de travailler. Donc, par exemple, il y a deux exemptions à l'interdiction, l'éducation et la santé. Par exemple, beaucoup d'ONG ont mis la plupart de leurs programmes, techniquement sous la santé ou sous l'éducation. Donc, les gens, les travailleurs humanitaires réussissent à trouver un peu des solutions, mais malheureusement, c'est très ad hoc, c'est très temporaire et ce n'est pas du tout une solution durable. Donc, ni pour les travailleuses humanitaires, ni pour les femmes qu'elles essaient d'aider, ni même pour l'avenir de ces programmes dans le pays. Et encore une fois, il y a une fatigue des bailleurs de fonds aujourd'hui qui sont vraiment tiraillés entre l'Afghanistan, qui est quand même une situation qui dure depuis très longtemps, Israël, etc. Donc c'est très compliqué aussi de réussir à créer l'espace en fait, d'avoir ces discussions.
Oui, c'est ce dont on parlait Shakiba plutôt dans l'émission. D'ailleurs, Shakiba, vous militez en France pour la sensibilisation à la cause du peuple afghan. Et pour vous, ça passe aussi par l'échange interculturel, par l'aide à l'intégration de... Parce qu'il y a toute une communauté afghane, enfin, une communauté, je ne sais pas si on peut parler de communauté au sens où c'est compliqué d'arriver, de trouver des contacts quand on arrive en France en tant que réfugié. Comment vous travaillez, donc votre association s'appelle le Cercle Persan, comment vous travaillez à la rencontre entre Français et Afghans ?
Alors moi je voudrais tout d'abord remercier toutes les acteurs, les associations qui aident les réfugiés en termes généraux, que ce soit de l'Afghanistan, de l'Afrique, peu importe la Syrie, Proche-Orient, etc. Parce que sans aide de ces acteurs, on ne savait pas comment aider ces gens-là. Parce qu'ils viennent en France en pensant arriver dans un pays où il y a la démocratie, où il y a le droit humain qui est respecté. Je remercie, par exemple, je vais citer des noms, en fait, des associations avec qui j'ai travaillé et qui sont toujours sur les terrains et qui font le maximum pour aider les gens. Par exemple, on parle de Utopia 56, il y a l'association Singa qui a beaucoup aidé les migrants de tout horizon à créer leur propre entreprise, à devenir indépendants. J'ai travaillé avec eux. Il y a l'association Unir aussi qui aide encore les étudiants et les jeunes migrants à intégrer les
Oui, on avait voilà, reçu une représentante d'Unir.
C'est très, très important, toutes ces actions. Après, il y a aussi chez les Afghans l'association Ariana et il y a le Cercle Persan, bien évidemment. Je l'ai créé en 2022. C'était en novembre, suite à quelques initiatives que j'ai prises dès l'arrivée des talibans, parce que je sais que le gouvernement français, suite à cette opération qu'on a appelée l'opération Apagan, a fait une liste des gens qui devraient être évacués, et ces personnes-là, en fait, ce sont des gens instruits, des gens éduqués, voilà, bureaucrates, technocrates, etc. Ils arrivent en France, mais la France n'a aucun programme pour les accueillir, pour les intégrer. En fait, on ne sait même pas comment utiliser leurs connaissances, leurs savoir-faire, etc. Donc, ils sont envoyés un peu à droite et à gauche, comme dans des villages, les milieux ruraux, dans les villes où il y a moins d'habitants. Sauf que la qualité de l'accueil n'y est pas. C'est pas au rendez-vous.
Et vous cherchez, ce que vous cherchez à faire, c'est les aider.
Chercher à créer un vrai diaspora où on peut, permettre aux gens d'être à leur juste valeur, en fait, d'avoir de reconnaissance, pouvoir mettre au service de la population leur savoir-faire, leurs connaissances. Moi, je suis convaincue que s'il y a un changement qui doit arriver à n'importe quelle nation, c'est à travers la culture, à travers la connaissance et à travers le savoir. Le mot persan, c'est un mot galvaudé qu'on utilise pour parler de grandes peuples perses, alors que quand en France on dit persan, tout le monde pense qu'on parle des Iraniens. Alors que les Afghans, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Iraniens, ils font tous partie du peuple persan. Et malheureusement, tellement on ne connaît pas les Afghans en France, parce qu'il y a très peu de livres qui parlent de l'Afghanistan ou de peuple afghan ou écrits par les Afghans. Mm-hmm. Parce que justement, en Afghanistan, on a une culture orale. Donc l'association Le Cercle Persan permet de créer une nouvelle identité pour les Afghans qui est au-delà des enjeux médiatiques et politiques. On crée des événements, des tables rondes, on célèbre les fêtes festives afghans et on les présente aussi aux Français pour qu'ils participent, qu'à travers ces fêtes-là, ils puissent connaître mieux la culture afghane et qu'ils nous accueillent mieux. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, beaucoup. On vous souhaite le meilleur et vraiment du courage pour
c'était
la suite de votre mission.
Ouais,
merci, merci beaucoup, Mélissa Cornet, de vous être jointe à nous depuis Istanbul. Merci, Shakiba Dawood. Et on se rappellera bien du Cercle Persan. Merci à Chloé, notre chroniqueuse. Et merci, Margot, notre réalisatrice. Et merci à toi, Pauline.
Merci à toi, Margot.